contenir que la doctrine du prémillénaire abuse des prophéties traitant du royaume de Christ. En règle générale, elle enseigne que l'intention première de Dieu avait été d'accomplir ses prophéties durant la première venue de Jésus. Ce projet ayant été retardé, l'Éternel se vit contraint de le reporter au retour de Christ. La raison en étant le refus de la nation juive dans son ensemble d'accepter Jésus pour Messie. Une telle prise de position réduit l'établissement de l'Église à l'échelle d'une sorte de solution de remplacement. Et cependant, Paul, en écrivant aux Éphésiens au chapitre 3, versets 10 et 11, affirme qu'il n'en est rien, qu'il s'agit là d'un des projets éternels que Dieu avait formé. Le but de cette partie de notre étude est de démontrer que les prophéties à propos du royaume se sont accomplies et que par conséquent, toute idée de prémillénaire est erronée à la fois dans ses prétentions et dans ses attentes. L'Éternel avait dit à David, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai la postérité après toi. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Le premier verset du Nouveau Testament déclare que Jésus est fils de David, fils d'Abraham. L'apôtre Pierre proclame lui aussi que lorsque l'Éternel avait promis à David de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, que c'était de Jésus qu'il était question. Daniel avait dit, « Dans les temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Nebuchadnezzar avait vu dans son fameux songe ce que représentaient les quatre grands empires du monde, celui de Babylone, le Médo-Perse, le Grec et le Romain. L'un devait supplanter l'autre dans l'ordre des choses données. C'était durant l'époque du quatrième empire, le Romain, que Dieu établirait son royaume. Si cela ne s'était pas produit, la prophétie aurait été fausse, et Dieu lui-même aurait pu être accusé de supercherie. De plus, si cette prophétie doit encore s'accomplir, que devons-nous penser de la liste des quatre empires? Il faudrait non seulement que celui de Rome réapparaisse, mais également l'empire grec, l'empire médo-perse et l'empire de Babylone, et cela dans l'ordre donné par Dieu. Luc spécifie que Jésus est né durant le règne de César Auguste, l'un des empereurs romains. Il s'agit donc de la bonne époque. Concernant le moment, Daniel avait également prophétisé, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il est utile de noter que Daniel dit que lorsque le Fils s'avança vers l'ancien du jour, sur les nuées des cieux, on lui donna un règne, c'est-à-dire un royaume, afin que tous le servent. Actes chapitre 1, verset 9 spécifie comment Jésus monta vers le ciel et comment une nuée le déroba aux yeux de tous. C'est à ce moment précis que s'accomplit la prophétie. Son ascension eut lieu avec les nuées pour s'avancer vers l'ancien des jours. Ce fut alors qu'il reçut un royaume, car sans cela, la prophétie eût été fausse. La doctrine du millénium voudrait qu'il reçoive un royaume lors de son retour de la part de l'ancien des jours. Jésus descendit sur terre durant l'époque des empereurs romains. Il prêcha, fit des miracles, prépara les apôtres, leur confia une mission, puis s'éleva dans les cieux parmi les nuages, vers l'ancien des jours. Ce fut quelques jours plus tard, sous le règne des empires de Rome, qu'il envoya l'Esprit et établit son royaume. Des passages tels que 2 Samuel, chapitre 7, 12 à 16, et psaume 89, 3 et 4, promettaient que le Messie s'assiérait sur le trône de David. Ceux qui enseignent le millénium appliquent ici une fois de plus au retour de Jésus, une période durant laquelle ils pensent qu'il vivra et régnera sur la Palestine. Loin d'eux l'idée qu'il puisse déjà être sur le trône de David, mais qui est donc le trône en question. Ce terme ne se référait nullement à un meuble, à un objet servant à s'asseoir, mais décrivait plutôt l'exercice d'une puissance royale. Il est le même dit dans la Bible que Salomon s'assit sur le trône de son père, David, et ce trône, après plusieurs versets bibliques, était également nommé trône de Dieu, parce que c'était l'Éternel qui intronisait les rois. C'était le trône de David, dans le sens qu'il avait exercé cette haute fonction par arrêt divin, de même que Christ, postérité de David, avait été décrété souverain de tout le peuple spirituel de son père, c'est-à-dire l'Église ou le ce principe lorsqu'il dit que Dieu a ressuscité Jésus afin de le faire asseoir sur le trône de David. Il poursuit son exposé en montrant que le Fils est assis à la droite du Père et fait Seigneur et Christ. Ce Seigneur ne pouvait régner sur le trône de David d'une manière terrestre, matérielle, sans violer ce qu'avait annoncé Jérémie 22, 28 et 30. Le prophète disait que Jéconia serait le dernier des descendants de David à s'asseoir sur le trône et à régner sur Juda. Or, il se fait que Jésus fait partie précisément de la lignée de Jéconia. Il ne pouvait par conséquent pas régner sur terre sans violer la prophétie en s'asseyant sur le trône de David. Étant donné que Christ règne actuellement et qu'il est assis sur le trône de David, on ne peut qu'en conclure que ce trône se trouve au ciel, puisqu'il est virtuellement impossible au Fils de Dieu d'accomplir cette prophétie sur terre. Son règne est spirituel, et cela ne fait aucun doute. Le psaume 110, versets 1 à 4, prophétisa le spectre de puissance du Messie. Ce jour-là, il devait, toujours selon la même prophétie, s'asseoir à la droite de l'Éternel, dominer au milieu de ses ennemis, gouverner sur un peuple plein d'ardeur et être sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Mais chacune de ces choses sont maintenant accomplies en Christ. Il est en ce moment assis à la droite de la majesté divine. Il règne au milieu de ses ennemis. Ceux qui le servent maintenant le font d'une manière librement consentie. Il est actuellement souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le moment de sa puissance est arrivé et se déroule en ce moment. Zacharie 6, 12 à 13 prophétisa que le Messie bâtirait un temple, s'assierait sur son trône, y dominerait, serait sacrificateur. L'Église est son temple. Il est assis sur son trône. Il règne à partir de ce trône. Il est souverain sacrificateur. Et ceux qui enseignent le millénium se voient contraints d'éviter soigneusement ces vérités s'ils ne veulent pas voir leur théorie s'écrouler comme un château de cartes. L'Église au royaume a à leur tête Jésus-Christ. L'Église et le royaume ont le même territoire, le même sujet, la même loi. Les membres de l'Église de Colosse étaient dans le royaume. Les conditions d'accession au royaume sont identiques pour l'Église. Les deux observent le même mémorial, le repas du Seigneur. Le Nouveau Testament déclare que l'Église représente la plénitude de Christ. Par conséquent, on trouve présentement dans l'Église tout ce qui se rapporte au règne du Messie et à ses sujets. Rien de complémentaire ne pourrait donc être fourni par une condition située dans un futur purement théorique se déroulant sur terre. Jésus enseigne que la nouvelle naissance permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais que si le royaume n'existe pas encore, personne n'a pu y entrer et n'est né de nouveau. De même, le Seigneur dit qu'une conversion préalable est essentielle à cette même admission dans le royaume. Et en suivant le même raisonnement, on se voit forcé d'admettre une fois de plus que sans une existence présente du royaume, personne ne peut y entrer, et encore moins, être converti. Le but même de la prédication de l'Évangile, qui est de persuader chacun, tombe d'office. L'apôtre Paul, en Colossiens chapitre 1 et verset 13, dit que ceux qui se trouvent en dehors du royaume sont sous la puissance des ténèbres, et par conséquent perdus. Si le royaume n'est pas encore fondé, il serait logique de conclure tout d'abord que le monde entier est perdu, puisque sous la puissance des ténèbres. Cela inclut d'ailleurs les prémillénaristes. Ensuite, que l'ensemble des sauvés ne forme pas l'Église, et que tout est perdu dans l'attente d'un prétendu millénium. Il ressort de la lecture de Luc chapitre 22, versets 29 à 30, que le repas du Seigneur devait être mangé dans le royaume. Une fois de plus, la non-existence de ce royaume conduit à un illogisme criard. Personne n'aurait donc le droit de participer à ce repas. Et pourtant, Paul situe son observance entre le sacrifice et le retour du Seigneur. Il doit être fait en mémoire, et aussi jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Si le royaume n'est pas encore fondé, pourquoi les assemblées professant le règne millénaire de Jésus sur terre observent-elles la scène? Ne commettent-elles pas là un grave péché de présomption? Dès lors, la nouvelle naissance, la conversion, le fait d'échapper à la puissance des ténèbres, le droit de pouvoir prendre part au repas symbolique institué par le Seigneur, cet ensemble de bénédictions est rayé de la vie si la doctrine du millénium est conforme à la vérité biblique. Tout cela ne constitue pas une suite de spéculations anodines sur quelques prophéties qui ne seraient prétendument pas encore accomplies. Oh non, loin de là. Il s'agit d'un système faisant de l'Église un accident, de Dieu un faux prophète, et qui ravit les chrétiens de toutes les bénédictions dont ils jouissent présentement dans le royaume, dans l'Église de Jésus.